scientifique atteint le temps. Et qu'attend-il du temps? Oui, je vous disais déjà, mais c'est bien de reprendre parce qu'il faudrait que vous saisissiez bien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le temps peut être considéré, comme dit toujours saint Thomas, formellement. Et le temps dans les réalités qui mesurent et ce qui est mu. Il est évident que quand je regarde le temps dans la réalité, des réalités qui sont mues, c'est toujours cela qu'en définitive nous essayons d'atteindre. Mais on atteint cette réalité mesurée par le temps de deux manières tout à fait différentes. Et c'est peut-être, je dis peut-être, peut-être là où on saisit le mieux de la manière la plus explicite la différence d'approche du réel, du philosophe et du savant. Au plan philosophique, c'est évident à l'égard du temps qu'on saisit le mieux la différence entre une philosophie réaliste et une philosophie idéaliste. C'est très curieux. Alors, je vais m'expliquer en quelques minutes. Mais, comme vous avez vu les degrés du savoir, et les critiques des degrés du savoir, et que ça fait partie d'un chantier qui demeure, et qui doit se continuer, il y aurait un petit chapitre très intéressant là-dessus. Marita n'aborde pas, mais que je crois qu'on doit aborder. Un des aspects aujourd'hui extrêmement important, j'ai très bien vu avec le dialogue de Jacques Foutier que c'était un des aspects sur lequel, au fond, un mathématicien qui s'intéresse aux applications des mathématiques, aux connaissances physiques et aux connaissances astronomiques, s'intéresse le plus. Le philosophe réaliste, Aristote, saint Thomas, et nous essayons à la suite de courir par derrière, de comprendre ce que c'est. On saisit le temps par l'instant présent. Le réalisme, la seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Et c'est tout ce qui est dans l'instant présent. C'est du reste pour ça que ça vous donne un peu le vertige quand on essaie de comprendre ce que c'est que le temps. Parce que ce qui s'est passé hier est passé. Ce qui s'est passé ce matin est passé. Ce qui se passera ce soir n'est pas encore présent. Je peux imaginer. J'imagine ce qui se passera ce soir. Vous avez un petit programme. Vous savez à peu près. Je ne sais plus à quelle heure. Hein. Il y aura telle chose. Chapitre de communauté à telle heure. Vous imaginez. Mais vous ne le vivez pas. C'est pas du vécu. Le vécu, ce sera à l'instant présent. Et ce qui était passé, et ce qui s'est passé hier, c'est du vécu. Passé. C'est l'instant présent. Et pourtant, il y a une continuité. Il y a une continuité. Vous savez bien qu'il y a une continuité. Ce que vous avez vécu hier et ce que vous vivez maintenant, il y a une continuité. C'est vous qui faites la continuité. C'est grâce à vous qu'il y a une continuité. Sur la continuité de la pierre, vous la projetez, mais vous savez, comment l'arbre a-t-il vécu hier? Comment a-t-il vécu maintenant? Comment a-t-il vécu ce soir? Vous savez pas très bien, vous projetez, c'est vous. Donc, c'est en fonction de l'instant présent que vous pensez le passé et le futur. Et c'est votre intelligence qui fait ça. C'est pas l'imagination. L'imagination, c'est très curieux. Le temps d'imagination, c'est la durée de l'imagination, et le temps présent. Donc c'est l'instant présent qui donne tout le réalisme. Le reste, c'est l'intelligence qui ordonne, qui projette le futur et qui assume dans l'intelligence la mémoire de l'intelligence. voyez, c'est la question d'approche du réel. Comment le savant approche-t-il le réel? À la différence du philosophe. Et c'est particulièrement éloquent par rapport au temps. Le savant, physicien, parce que le mathématicien ne s'occupe pas tellement du temps, vous voyez. Il est dans les possibles. Alors il voit bien que les réalités qui impliquent le devenir sont dans le temps. Mais il ne s'en occupe pas tellement. C'est dans les applications mathématiques qu'il s'en occupe. L'être mathématique, comme tel, n'est pas dans le temps. Lisez cet article du père Gérard Delaurier sur l'être mathématique dans la revue Science des sciences philosophiques et théologiques du Saulchoir. Facile à retrouver, la référence exacte. C'est déjà vieux, mais l'être mathématique n'a pas vieilli. Et je crois que le père Gérard Delaurier dit des choses qui sont assez justes, pertinentes. Un article difficile à lire. Parce qu'il faut être à la fois philosophe et matheux. Mais c'est intéressant, parce que c'est la recherche. Qu'est-ce que c'est que l'être mathématique? Et vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être logique? Est-ce que l'être logique est dans le temps? Non. Et il y a des analogies entre l'être mathématique et l'être logique. Et par rapport au temps, c'est à peu près la même chose. Donc l'être mathématique n'est dans le temps que par son fondement. Son fondement matériel, lointain, et formellement, l'être mathématique est en dehors du temps. Je crois que ça, tout le monde peut le comprendre. Or, toutes les sciences physiques et astronomiques ne se formalisent que grâce aux mathématiques. Et donc, le filet connaissance par rapport au temps n'est pas direct. Il reste fondamental. Et c'est le point de vue mathématique qui formalise cette conception du temps. Où il n'y a plus d'instant présent, c'est bien évident. Il n'y a que le passé et le futur. Un ordre. Ce qui fait que la connaissance de la réalité reste toujours médiate, jamais immédiate. Alors vous construisez, c'est évident, vous construisez. À partir de certaines expériences, vous construisez. Mais ce n'est plus le temps réel du philosophe qui est réel par l'instant présent. C'est un ordre qui me permet d'organiser toute une série d'événements passés et futurs. Alors, il y a une référence au réel, bien évident, ce n'est pas une pure construction logique. Il y a une référence, mais elle est fondamentale. Le réel ne mesure plus la pensée du savant. Au sens strict, mesure d'une façon lointaine pour montrer que ce n'est pas contradictoire. Vous voyez, c'est, posez-vous la question pour comprendre ça, comment le savant atteint-il le réel? On va le revoir ici, en voyant la question des... puisqu'on m'a demandé de parler des éléments... Alors on retrouvera quelque chose de semblable à propos des éléments. Qu'est-ce que ça signifie exactement cette connaissance des éléments au point de vue chimique? Vous voyez, tout est là. Donc il faut remuer tout un aspect critique extrêmement intéressant pour qu'on puisse comprendre un tout petit peu qu'est-ce que représente exactement le temps de l'astronome, du physicien, par rapport au temps du philosophe, qui est seul le temps réel, mesuré par le point de vue du soleil. Puisque c'est par rapport à tout le mouvement du soleil ou de la terre autour du soleil. C'est ça le temps du philosophe, par rapport à l'instant présent. Et c'est distinct de la durée. Or, je crois que lorsqu'il s'agit du temps mathématique et du temps physique et du temps astronomique, tout est dans la pensée, dans le vécu du savant, puisqu'il n'y a plus d'instant présent. Ce serait intéressant, comme intermédiaire, de voir que représente le temps exactement par rapport à la fémologie, le vécu, qui alors est identifié avec la durée. Vous n'arrivez plus à préciser les deux, puisque c'est le vécu. Le vécu est toujours la durée, une durée intellectuelle de la pensée. Et je crois qu'on arriverait à comprendre que lorsqu'il s'agit du temps scientifique, astronomique ou physique, il y a toujours une référence au vécu. À la place d'avoir la référence à l'instant présent, c'est la référence au vécu. Je ne peux que vous indiquer la piste, parce que autrement, nous retomberions dans ce problème très important, surtout quand on fait la philosophie de la matière. Quelle différence y a-t-il entre la connaissance de la matière, du philosophe et du scientifique? On trouve toujours la même chose. Et il faut essayer de le préciser.
Savoir, je crois que le philosophe ne peut jamais épuiser la matière, lui échappe.
Jamais, jamais. Mais il peut quand même saisir par le chemin d'existence ce qui est. Alors, d'autres questions. Est-ce le mouvement tout court ou le mouvement naturel qui est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance? C'est le mouvement naturel, c'est sûr. On est en physique, en philosophie de la matière. N'est-ce pas seulement le mouvement naturel qui est finalisé et qui actue la réalité physique? Oui. Le mouvement artistique. Oui, quand on dit le mouvement tout court, c'est toujours le mouvement naturel. Hein. Surtout quand on est en philosophie de la nature, en philosophie de la matière. Le mouvement artificiel, il formalise. Il n'actue pas. Un petit peu comme le mouvement vu du côté scientifique. Il formalise, il n'actue pas. Seul le mouvement naturel actue. Si le temps, comme mesure du mouvement, n'existe que dans l'intelligence humaine, n'existe formellement, attention, si le temps, comme mesure du mouvement, n'existe formellement que dans l'intelligence humaine. N'est-ce pas parce que seule l'intelligence humaine peut, dans un jugement d'existence, saisir l'essai actuel des réalités physiques? Et donc, l'instant présent mesure ce qui est vu. Oui, c'est le jugement d'existence qui seul le représente. Mais, en tant que c'est une mesure, voyez bien, l'intelligence apporte le point de vue de la mesure. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est que la connaissance scientifique mesure le réel. Et lorsqu'il s'agit de la connaissance du temps, l'intelligence devient mesure formellement. Mais en reconnaissant que ce qui est donné en premier lieu, c'est le jugement d'existence. jugement d'existence, l'instant présent, si je le mets entre parenthèses, il n'y a plus que l'intelligence qui mesure. Et je reste dans une connaissance formelle du passé et du futur, c'est-à-dire uniquement un ordre. Alors je peux, à l'intérieur de la science, dire plus ou moins long. Oui, donc les chiffres astronomiques correspondent à une connaissance scientifique. C'est ça que je voulais vous dire. Et ne dites pas que ces chiffres astronomiques correspondent au jugement d'existence. Non. Ça vous fait une interpellation. Alors c'est toujours ce qu'on fait, ça. C'est les vulgarisations. Les savants le savent très bien. Mais c'est la vulgarisation. C'est ça qui est terrible. Vous voyez, c'est la culture scientifique qui fausse tout. Parce que la science n'est pas une culture. Et elle devient une culture. Dans la mesure où elle devient une culture, elle fait réintroduire l'homme. La culture est toujours en référence avec l'homme. C'est le propre de la culture, hein, je crois. Si je cherche qu'est-ce que c'est qu'une culture, c'est la culture est pour l'homme, quoi. Or, la science fait abstraction de l'homme. Seule la philosophie ne fait pas abstraction de l'homme. C'est la grosse différence. Hein. Il faut qu'elle tout le temps revenir là-dessus. La science formalise en dehors de l'homme. L'homme n'intervient pas dans l'être mathématique. Il intervient puisque c'est lui qui l'a inventé. Mais l'homme, dans sa finalité, l'intelligence humaine et la raison humaine intervient, c'est sûr, mais pas l'homme dans sa finalité, donc pas la personne humaine. Pas l'homme dans son acte d'existence. Alors vous voyez, c'est très curieux, quand on dit culture scientifique, il y a un petit quelque chose qui va plus. Mais en toute rigueur logique, on devrait dire non supponi. La culture non supponite. C'est-à-dire la science non supponite par rapport à la culture. Parce que qui dit culture dit référence à l'homme. Qui dit science, mathématique, physique, astronomique ne dit pas référence directe à l'homme. Alors c'est là qu'on dit il y a quelque chose qui ne va plus. Et je crois que c'est constant ça. C'est qu'on est tout le temps dans cet équivoque. Mais tout le temps dans cet équivoque. Parce qu'aujourd'hui, on dira toujours une culture scientifique. Alors, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une culture scientifique? Alors, on dira, c'est un fait. Oui, mais attention, hein. C'est un fait parce que les gens vivent dans l'équivoque. Alors, si vous prenez le fait équivoque pour la réalité, attention, vous ne rejoignez plus la réalité. Dans une culture scientifique, vous ne pouvez plus rejoindre l'homme dans sa finalité. Et ne pouvant plus rejoindre l'homme dans sa finalité, vous ne pouvez plus parler de la personne humaine. Et on en parle tout le temps. De temps en temps, arriver à percer ce nuage. Et je prends un exemple, si vous voulez, hein. À Mexico, la pollution est telle qu'on ne voit plus jamais, sauf une fois par an, paraît-il, ou deux fois par an, la ville entourée de sept volcans. De sept volcans qui entourent la ville. Alors, il paraît que c'est très beau, comme paysage magnifique. Je comprends, c'est peut-être très beau. Mais la pollution est telle qu'on ne voit jamais. Sauf deux fois par an où le vent est suffisamment fort pour retirer tout ça, alors on dit, ah, tiens. Alors vous voyez, je ne dis pas que la science est une pollution, mais elle l'est pour la culture. Si la culture est humaine, elle met une impossibilité dans sa mesure où elle est capable d'aimer. Alors la science peut rien dire sur l'amour. Même pas la psychologie. Peut rien dire sur ce que c'est que vraiment l'amour. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui sont plongés dans cette culture scientifique qui dit mais qu'est-ce que c'est que l'amour ? Mais vous n'avez jamais expérimenté, non, non. Quand vous voyez quelqu'un de 25 ans ou 30 ans qui vous dit qu'il ne sait pas ce que c'est que l'amour et qu'il ne l'a jamais expérimenté, vous dites, hein, qu'est-ce qu'il fiche là ? Et c'est ça, c'est la réalité, c'est comme ça. On le voit, on le verra de plus en plus. Parce que les sept volcans sont sous l'emprise d'une pollution extraordinairement forte qui fait qu'on ne voit plus. Il faut réfléchir là-dessus beaucoup, beaucoup. Parce que c'est... Alors, il y a quelques pointes comme ça, je vous dis, qui nous obligent, qui nous secouent, et qui nous disent, mais c'est vrai, bon. J'avais jamais fait la critique de ça. J'avais subi toutes les propagandes de droite ou de gauche. Alors, il ne s'agit pas en face de ça faire une propagande, vous voyez, d'ordre qui soit tout à fait apologétique, qui serait une autre projection, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fondamentalisme par rapport à la révélation. Alors que la révélation prend un langage symbolique, passer du langage symbolique de la révélation au jugement d'existence immédiate, eh bien, ça, c'est le fondamentalisme. Mais c'est une autre apologétique. Notre vie chrétienne dépasse la connaissance symbolique. Et elle atteint le réel. Le réel révélé. Et le réel révélé n'est pas symbolique. Mais ce réel révélé m'est donné à travers un langage symbolique. Et c'est pas commode, hein. C'est très difficile de garder une lucidité philosophique. Parce que c'est la lucidité philosophique qui me permet de faire la critique du point de vue symbolique et du point de vue scientifique. Et ne pas tomber dans ces deux apologétiques. Parce que c'est l'apologétique qui fait toujours ces passages indus. Oui. Et je crois que conservateur et d'ordre, au contraire, d'être du côté du futurisme, c'est encore un langage symbolique, parce que politique, et qui ne touche pas le réel. Alors, je vais regarder maintenant tout de suite ce qu'on m'a demandé de traiter. Le point de vue des éléments, comment sont-ils déterminés à partir des mouvements ? À partir des qualités sensibles, sensibles propres du toucher, quel rapport avec le corps humain ? C'est très important de voir comment, de fait, les éléments ont été précisés dans la pensée d'Aristote. C'est la première chose qu'on doit faire. Ensuite, on doit se demander si ce que dit Aristote est modifié par la connaissance scientifique. Je vous ai dit, j'ai fait un séminaire à Fribourg pendant toute l'année là-dessus, avec des chimistes, la chimie organique et la chimie tout court, parce que c'est intéressant. Même très important. Pour Aristote, ça joue un très grand rôle. ce n'est pas l'aspect premier. L'aspect premier de la philosophie de la nature, c'est la nature. Donc c'est la phusis. Et la phusis est principe. Elle est principe du côté nature-forme et du côté nature-matière. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup qu'on dise philosophie de la nature, vous voyez. Parce que vous ne dites pas la métaphysique de la substance. Vous ne dites pas la philosophie de la substance. Vous dites la philosophie de l'être. Donc on doit dire la philosophie du devenir ou la philosophie de l'être matériel. C'est mieux. C'est la philosophie de l'être matériel, de l'être en mouvement. Ou la philosophie de la matière, on peut dire ça. Parce que la philosophie de la matière a au moins cet avantage de ne pas être directement un principe. Et que je me heurte toujours sur la matière. Si pour le philosophe, la philosophie de la nature se pose à partir de la connaissance artistique, ce que je crois, c'est vraiment la matière. Parce que la matière, c'est l'au-delà de l'œuvre. C'est une méta-œuvre. Vous avez fait une bêtise dans votre... Mais non, c'est la matière que j'ai prise, c'est à cause de ça. C'est pour ça que c'est fêlé. Et c'est vrai, regardez. Quand il y a eu, vous savez, il y a quelques années, c'est à Toulon, à Fréjus, un barrage de Fréjus, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et c'était très intéressant de suivre cela au plan philosophique. C'est un procès. Et ceux qui l'ont fait, dit, écoutez-vous, la connaissance de la matière échappe. Il y aura toujours des choses. C'est comme quand les vitres, vous savez, ces bâtiments modernes, mais, où les vitres font tout, pratiquement. Avec la chaleur, il y a une dilatation qui, quelquefois, n'est pas entièrement prévue. On va vers des chaleurs qui vont aller très très fortes.
Là, c'était plus grave parce que je crois qu'il y avait en prison. Donc...
Quoi ? Ah oui ! Et il faut prier pour lui. Ça, c'est le jugement, point de vue, vous voyez.
Justice ?
Oui, politique. Allez, je connais, mais c'est comme les architectes, quand ils construisent sur des terrains, ils demandent de faire des fondations, de voir d'abord exactement. Ils construisent. Et quand ils ont construit, le poids du bâtiment fait que ça s'effondre. Alors qu'est-ce qui est coupable ? Est-ce que c'est l'architecte ou est-ce que c'est le savant qu'on a interrogé avant ? Ça arrive, ça. Je connais comme ça des architectes qui ont eu des procès là-dessus. Et ils avaient fait avant l'enquête, qui était faite très sérieusement. Je me souviens. Ce soir, la construction, tout près de la Seine, donc il y a le lit de la Seine, qui était bien plus étendu avant. On a dû, dans les fondations, mettre un prix plus grand que dans le bâtiment qui se levait. Ah, vous avez vu ça, c'est affolant. Ben oui, c'est affolant. On devrait construire un peu plus loin. Et c'est constamment comme ça. Donc on voit très bien ce que c'est. La nature échappe. Dans ce qu'elle a de plus foncier à la réalité. Donc, philosophie de la nature, de la matière. Je veux dire, la matière échappe. Il y a quelque chose de fondamental dans la matière qui est irréductible à notre connaissance, à toute connaissance. Et le réalisme va jusque-là. C'est à cause de ça que le réalisme tient bon et qui tiendra bon jusqu'au bout. Parce que la science est la statue de Nabucodonosor. Elle a des pieds larges. Ah bonjour. T'es là, maman. Tiens, qu'elle n'existe pas. Bah oui. N'a pas vu que. C'est quand même très important de saisir ça. Donc, la philosophie de la matière pour le philosophe est composée à partir de ma connaissance artistique. Je ne peux pas connaître tout par la connaissance artistique. Mais c'est intéressant puisque c'est là où nous pouvons attaquer philosophiquement de la manière la plus forte l'idéologie marxiste. C'est tout le temps là. Il faut tout le temps revenir là. Là, au plan purement philosophique. C'est que, de fait, il y a quelque chose que l'idéologie marxiste n'accepte pas. Accepter. C'est qu'avant l'idéologie marxiste, il y a la matière. C'est de distinguer la connaissance pratique de la connaissance spéculative. Il faut reconnaître qu'il existe une connaissance spéculative. Il faut la redécouvrir face aux idéologies. C'est la chose la plus difficile. Or, le premier moment, au point de vue génétique, où va se faire cette distinction entre le point artistique et le point de vue spéculatif, c'est la découverte au-delà de la connaissance du fait géré, des techniques, de la connaissance scientifique liée à la technique, de toutes les idéologies positivistes, c'est de découvrir qu'il existe une philosophie de la matière. C'est dans ce sens-là que la matière sert hautement à la philosophie pour montrer qu'il existe une philosophie spéculative, c'est-à-dire la recherche de la vérité pour la vérité. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. En dehors de ça, vous ne pouvez pas. Tellement difficile au plan métaphysique d'arriver à découvrir, hein, que l'être est objectif. Tellement difficile. Puisque la matière ne s'introduit en philosophie première que par l'intermédiaire de la réalité qui existe, le comment, et pas directement. Tandis que, en philosophie de la matière, on se heurte à la matière. Et c'est ça qui oblige de reconnaître qu'il y a quelque chose qui échappe à ma connaissance artistique. Il faut tous arriver à ça. Si vous n'y êtes pas encore arrivé, cherchez-le. Parce que c'est capital. Nous sommes tous dans une culture idéologique qui fait qu'on ne pense qu'il n'y a qu'une seule connaissance, la connaissance scientifique, la connaissance technique, la connaissance pratique. Et on ne veut connaître les choses que de cette manière. Alors, alors il faut libérer l'intelligence. Et libérer l'intelligence, c'est libérer le nous séparé. C'est-à-dire la recherche de la vérité pour la vérité. Ça, je crois qu'on doit, tout se faire soi-même. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Ça, c'est la conversion de votre intelligence. Si votre intelligence n'est pas encore convertie, il faut qu'elle le soit. Et il ne faut pas croire, parce qu'on l'a fait une fois, que ça y est. On doit recommencer tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça le problème de la philosophie. La découverte qu'il y a une connaissance de la réalité physique antérieure à la connaissance artistique, antérieure aux connaissances techniques. Donc c'est à partir de là que nous regardons. Et là, nous découvrons la foule. Ça, je crois que toute la connaissance physique, scientifique d'aujourd'hui laisse le philosophe à l'abri de toutes ces colonisations des mathématiques. Les mathématiques n'atteignent pas la physique et ne touchent pas la physique. Principe immanent de ce qui est mu en tant qu'il est mu. C'est un principe. Et les mathématiques restent au niveau des relations, à l'intérieur des relations du possible. Donc je peux saisir des lois, puisque les lois sont des relations nécessaires. Je peux saisir des lois, mais je ne sais pas des principes. Je ne sais pas les principes propres de la réalité physique. Il faut être très net là-dessus. Il faut le comprendre. Si on ne comprend pas, c'est quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, pour entrer dans la philosophie, pour entrer vraiment dans la philosophie, il faut découvrir cela. Et ce n'est pas commode, hein, je vous affirme. Ça met du temps. Donc, la nature est saisie comme principe immanent de ce qui est mu en tant qu'il est mu, dans la réalité physique, dans la réalité mobile, comme principe efficient du mouvement. Ce principe implique tout de suite une dualité extraordinaire. La dualité phusis, forme, phusis, nature. Et la phusis, forme, me permet de saisir que la nature, principe efficient, implique une finalité. Donc vous voyez bien le mouvement, ça c'est très très important, je l'ai déjà dit mais je le répète parce que c'est quelque chose qui est absolument capital. Ce qui est mu, je saisis la phusis par induction. Dans le dynamisme propre du dans la philosophie pratique, dans la philosophie artistique, où je découvre l'œuvre comme fin. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez réalisé une œuvre, bien vous vous arrêtez et vous apportez voilà ma dissertation, hein, chef-d'œuvre. Et vous vous arrêtez à ce moment-là. Et vous avez saisi à ce moment-là ce que c'est qu'une fin. Ça permet le repos. Faut pas être très intelligent pour comprendre ça. Il faut tout simplement savoir se reposer. Parce qu'il y a la saisie de la fin dans le repos. C'est extraordinaire ça. Et vous vous reposez quand vous avez terminé votre... Quand vous n'avez jamais rien fait dans votre vie. Vous savez pas ce que c'était que la finalité. Non, non ça, non. Vous n'avez rien fait. Vous vous êtes jamais reposé. C'est pas si commode que ça de se reposer. Il y a des gens qui se reposent jamais. Ça ne veut pas dire la détente, hein, c'est tout à fait autre chose, le repos. Le repos métaphysique, il y a la détente, il y a des gens qui se détendent en s'agitant. Ils font des tas d'exercices pour se détendre. Et ils font des tas d'exercices, ils se reposent jamais. Ils ne savent pas ce que c'est. Alors, il faut saisir une fin pour se détendre. C'est le repos. Tant que vous ne saisissez pas la fin, vous ne vous reposez pas du tout. Vous continuez de vous agiter. Et puis il y en a un autre qui s'agite autour. Et qui danse tout le temps. Et là, vous continuez la danse. Et c'est... Quand il y a des gens autour de vous qui dansent, vous ne pouvez pas rester immobile au milieu. J'ai toujours vu ça. Et c'est comme ça qu'il faut saisir là, ce que représente la saisie de la fin par le repos. Alors là, vous saisissez la fin. Qu'est-ce que c'est? Donc là, vous êtes au niveau des principes. Quand il s'agit des éléments, vous êtes au niveau du pose, le comment. Le comment élémentaire. Élémentaire. Ce qui est élémentaire est premier et fondamental. L'élément, c'est le premier dans l'aspect fondamental. Et c'est le pose. Je me suis demandé si j'allais faire un concours. J'aimerais savoir, parmi vous, puisque je suis obligé de partir cet après-midi, ceux et celles qui voudraient me voir, parce que comme le temps est limité. Bon, alors, je ne vais pas faire de ce concours, vous penserez. Je verrai donc les frères qui veulent me voir, sitôt, maintenant. Parce que cet après-midi, c'est à quelle heure le chapitre?
2h30.
Je demande à la prieure générale si en une demi-heure je pourrais satisfaire les sœurs, ou bien s'il faut plus longtemps. Quoi ?
Vous avez été tellement gentil hier.
Quoi ?
Une demi-heure, ça suffira.
Une demi-heure suffit. Bon, très bien. Alors ça va aller. Je pourrais voir les... Je crois que... Je sais pas. Je crois qu'il vaut mieux arrêter maintenant. Bien, si vous voulez, je continue 5 minutes pour répondre aux questions posées sur les éléments. Et puis, un peu de coup, un second. Je crois que c'est peut-être mieux. Hein? Ça n'a pas d'importance. Laissez tomber le truc. Je vous donne vacances, vous pouvez vous reposer. L'œuvre étant terminée, vous pouvez vous reposer. Et écoutez de façon purement spéculative le cours. Alors, comment Aristote détermine les éléments? Mais c'est très curieux, c'est pas dans la physique. Les éléments. Saisir le pose. C'est très important. Parce que la scolastique n'a plus fait la distinction entre le tiesti et le pose. C'est-à-dire le principe. Et la réalisation matérielle du principe. Comment, de fait, le monde physique se compose? C'est la composition des parties et du tout. La composition des parties et du tout, c'est les éléments. Oui, distinction que vous ne trouvez pas, évidemment, dans l'hégélianisme. Vous ne pouvez pas le trouver. Impossible. Dans rigole, il n'y a pas de distinction entre les éléments et les principes. Il faut se demander pourquoi. C'est la première question qu'on doit se poser. Parce qu'il n'y a pas de distinction entre la connaissance spéculative et la connaissance pratique, puisque c'est la dialectique. Et la dialectique est une connaissance pratique, pas spéculative, au sens propre. Et il n'y a pas de distinction entre le tiesti et l'opos, l'élément. L'élément. Qu'est-ce que c'est que l'élément ? L'élément, c'est la partie la plus petite que je ne peux pas diviser. Que je ne peux plus diviser. Mais c'est quelque chose qui existe. Le principe aussi existe. Mais formellement, le principe n'existe que dans l'intelligence, comme le temps. Il y a le fondement du principe dans la réalité. Tandis que lorsqu'il s'agit du pose, des éléments, c'est l'élément existant la réalité comme élément. Donc la recherche de l'élément ne se fait pas par l'induction. C'est ça qu'il faut comprendre. Au sens strict, c'est pas une induction. C'est à la lumière des principes appliqués à la réalité existante où j'essaie de comprendre où se trouve de la manière la plus simple, la réalisation de ces principes, forme, matière, fin, efficience. Et tout ça est impliqué dedans. Dans le pose, dans l'élément, je trouve le point de vue de la nature forme, de la nature matière, de la nature efficiente, de la nature fin. Tout est impliqué dedans. Et je cherche à découvrir qu'est-ce qu'il y a de tout à fait élémentaire dans la réalité physique. Or, comment je connais la réalité physique ? Tout est là. Comment je reconnais la réalité physique ? La réalité physique est toujours connue par mes sensations. Vous voyez, la découverte de la nature est au-delà des sensations. La découverte des éléments est au niveau des sensations. L'intelligence est présente, mais c'est au niveau des sensations. Je suis en connaturalité avec les éléments, puisque je fais partie de ce monde physique. Je ne suis pas l'élément de ce monde physique. Hein. Non, je suis beaucoup trop parfait. Je suis un tout dans ce monde physique. Un tout très original, très particulier, mais je suis un tout. Et donc, tous les éléments sont présents dans ce tout, ce petit cosmos que je suis. Et j'essaie de découvrir qu'est-ce qu'il y a d'élémentaire dans notre monde physique. Or, quelle est la sensation fondamentale ? La sensation fondamentale, c'est le toucher. C'est pas l'œil. Or, je cherche l'aspect fondamental de notre monde physique. C'est donc à partir des sensations du toucher que je vais essayer de découvrir les éléments. Et tout ça est très construit, hein, et très conscient. On le sait que c'est comme ça. Évidemment, ça présuppose que entre les sensations et l'intelligence, il y a un lien de connaturalité. Est-ce un a priori ? L'expérience, pour moi, n'est pas un a priori. Je sais très bien que ça demanderait toute une question disputée. L'expérience n'est pas un a priori. L'expérimentation, oui. Mais pas l'expérience. Alors, toute la différence entre l'expérience et l'expérimentation. Alors, pour quelqu'un qui est dans l'expérimentation, il considérera que l'expérience, ben, c'est du sens commun, c'est naïf. Ben oui, j'accepte d'être naïf. Pourquoi pas ? Goethe disait que tant que l'homme garde en lui quelque chose de l'enfant naïf, il reste un homme. Le jour où il supprime en lui cette capacité de naïveté, il n'est plus un homme. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est poétique, évidemment. Mais c'est très vrai. C'est pour le savant, pour le mathématicien, croire, vous voyez, croire, pistis dans le sens grec, faire confiance à ma connaissance simple. éléments sont des éléments, c'est-à-dire sont dans le monde physique les corps les plus simples. Au-delà de quoi je ne peux pas remonter. Au point de vue du pose, au point de vue du comment il existe. Parce que le feu existe, l'eau existe, l'air existe, la terre existe. Mais l'eau n'existe jamais à l'état pur. Le feu n'existe jamais à l'état pur parce que le feu, il brûle tout le temps quelque chose qui n'est pas du feu. Et quand le feu n'a plus rien à brûler, vous savez ce qui se passe ? Il s'éteint. C'est curieux. Il s'éteint le feu. Parce qu'il n'a plus rien à manger. Il ne vit que dans la mesure où il mange. On connaît des gens comme ça. C'est le feu. C'est le propre du feu. Il a une espèce d'estomac extraordinaire. Il n'est qu'estomac. C'est une béance, le feu. Il existe à travers ce qu'il assimile. C'est très beau du reste, tandis que la Terre, c'est pas du tout comme ça. Je sais pas comment il faudrait dire la Terre. C'est la fermeté, la Terre. La Terre, c'est la fermeté. C'est juste l'inverse de l'abéance. Alors, l'eau et l'air, c'est du côté de la largeur. C'est très extraordinaire, les éléments. Tu sais. Alors, je comprends très bien comment, à partir des éléments, on a une connaissance poétique des choses un peu cachées. Et on a poétisé sur les éléments. Et aujourd'hui, les éléments restent dans la philosophie comme quelque chose de symbolique. On aime les éléments. Tous les philosophes aiment les éléments. Mais de façon poétique, de façon symbolique. On dit, mais la science a supprimé. C'est vrai que les premières choses que la science a supprimées, c'est les éléments. C'est pour ça que je crois qu'on doit regagner du terrain, philosophiquement parlant, et reprendre le point de vue des éléments en respectant le domaine scientifique. Quand vous regardez la manière dont le chimiste parle des éléments, c'est tout à fait autre. C'est tellement autre que ça ne touche plus les éléments. Vous n'êtes plus dans le jugement d'existence. Vous n'êtes plus dans le jugement d'existence. Fondamentalement, oui, mais pas formellement, directement. Vous construisez un monde chimique. Et vous essayez de trouver les éléments chimiques. Alors, il y a le même souci de trouver. Alors, vous voyez, on a pris le même mot. C'est ça que je trouve dommage. Ça prouve que la science, au point de départ, a cru qu'elle remplacerait la philosophie. C'est pour ça qu'elle a pris les mêmes mots. Elle aurait dû inventer d'autres mots pour ne pas confondre. Il y a les éléments physiques, puis il y a des éléments chimiques. Et les éléments chimiques ne sont pas physiques. C'est chimique, c'est la science chimique qui construit ces choses-là. Alors je crois qu'on doit maintenir la question des éléments comme quelque chose de réel. Alors voyez, quel est le statut critique des éléments, c'est ce que je viens de vous montrer. Il faut savoir comment on les atteint. Et pourquoi on les atteint. Parce que le tout implique des parties. Et je veux saisir la partie la plus petite. L'élément physique, c'est la partie la plus petite. Et je constate tout de suite, et ça c'est très important, que je ne peux pas aboutir à un seul élément. Les éléments... C'est 4 jumeaux. C'est pas 2. C'est 4. Je pourrais dire qu'il y en a 2 extrêmes. Et puis 2 intérieurs. Le feu et la terre. L'eau et l'air. Mais ils sont jumelés. Toujours dans un état de réciprocité et toujours dans un état de rivalité. Comme des jumeaux qui ne sont pas de vrais jumeaux. Donc, toujours dans un état de rivalité. Il y a cette chose très très curieuse d'un équilibre constant. Et l'équilibre constant de notre univers est à partir des éléments. Alors, voyez, pour accepter les éléments, il faut accepter le réalisme du toucher. C'est pas le mouvement qui est le plus formel dans les éléments. Et l'œil me donne le mouvement. Alors, me donne le dynamisme des éléments. Donc, il faut bien comprendre ce statut critique des éléments. Et c'est quelque chose de réel. Alors, peut-on aujourd'hui parler d'éléments en face de la chimie moderne? Oui, en respectant la diversité. Alors, on me pose la question, comment sont-ils déterminés à partir des mouvements ou à partir des qualités sensibles? Les deux. Des sensibles propres du toucher, oui. Quel rapport avec le corps humain? Ah, alors ça, dernière question. Mais, puisque ce sont des parties, ces parties, je ne les comprends jamais parfaitement sans le tout. C'est le propre de la partie. La partie comme partie n'est parfaitement intelligible que dans le tout. Mais alors c'est intéressant qu'on a transposé ça dans l'ordre de l'être. C'est pas étonnant parce que c'est une connaissance tout à fait élémentaire, hein, les éléments. Donc c'est une connaissance qui conditionne toutes mes connaissances. Et on dira que la philosophie regarde le tout. Le tout, l'être. Qu'est-ce que c'est que le tout de l'être? Est-ce qu'il y a un tout dans l'être? Eh bien, il n'y a pas